Vous êtes sur Fred Firmaidi au Bénédicte Pro qui vous parle de la croisette et je suis aujourd'hui en présence de Clément Cogitor qui présente son premier long métrage à la Semaine de la Critique. Ce premier long métrage s'appelle Ni le ciel ni la terre. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors vous êtes artiste visuel et là vous vous lancez donc dans un premier long métrage ambitieux qui évoque un groupe de soldats français stationnés dans la région de Wakam et mené par le capitaine Bonacieux qui est incarné par Jérémy Régnier. Et qui font face soudain à d'étranges disparitions des leurs. Et donc, ces disparitions les forcent à se confronter à la culture locale, à la religion, les superstitions, et des choses qu'ils ne maîtrisent pas, eux qui sont si habitués à maîtriser tout ce qu'il y a autour d'eux. Si bien qu'à la reprise du conflit, ils ne savent même plus ce qu'ils font là. Donc, pour ce premier long, c'est quand même un sujet très ambitieux que vous avez choisi d'aborder, parce que c'est une guerre dont vous parlez, pas n'importe quelle guerre. Et vous avez aussi un angle métaphysique qui ajoute quelque chose de très grandiose un peu à ce sujet.
Oui, enfin, dès le départ, il y avait l'envie de traverser un petit peu, traverser les genres entre le film de guerre, le policier, le fantastique, de jouer un peu avec les codes pour au final faire un film d'auteur tel que, enfin, en tout cas un film qui me ressemble. En se disant que le sujet était compliqué, qu'il y avait plein de pièges, plein de clichés ou d'écueils possibles et qu'on allait faire tout pour les éviter. Et bah, j'espère que c'est le cas, mais voilà, l'Afghanistan c'est pas le sujet du film, mais c'est là-bas que ça se passe. Le film c'est un film sur la croyance et du coup se déploie là-bas dans cette région d'Afghanistan reculée où on a des soldats occidentaux qui ont leur rapport à la réalité, leur propre croyance, leur manière de travailler. En l'occurrence, leur travail c'est faire la guerre, c'est contrôler, c'est exercer un pouvoir. Ils sont face à des populations qui ont un mode de vie, un rapport à la réalité complètement différent, et des insurgés talibans qui en ont encore un différent. Voilà. Et tout d'un coup, ces groupes, ces personnages, petit à petit, se retrouvent dans une de plus en plus perdus tous, et se retrouvent des choses en commun. Et tout d'un coup, ils vont avoir des choses à se dire, à négocier, à échanger, qui vont être autrement que par le pouvoir et la violence.
Cette région, elle est vraiment très très belle. Comment vous l'avez-vous trouvée ? Parce que ce qui est beau, en fait, c'est que les hommes s'y confondent. Enfin, les hommes, les moutons, tout le monde s'y confond. Et c'est d'ailleurs peut-être à la faveur de cette atmosphère qu'il y a des disparitions. Les hommes sont happés, en fait, absorbés par cette région.
On n'a pas tourné dans cette région d'Afghanistan. On a tourné au Maroc. Et en fait, j'ai fait des repérages dans tout le Maroc, dans toute la classe, les montagnes. C'est la seule vallée vraiment que j'ai trouvée où j'avais une évidence. Et vraiment, le film tout de suite s'est écrit là. Et donc il y a un travail qui a été fait avec le costume, enfin sur les uniformes de l'armée. Voilà, tout d'un coup on a des personnages qui sont vraiment dans la même teinte du paysage, qui sont dans la question du camouflage, c'est aussi une manière de parler de l'invisible. Quand à un moment donné il y a un caméléon dans le film qui est aussi un signe comme ça sur est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. C'est une des questions que j'essaie de poser avec ce film.
Il y a aussi de très belles scènes nocturnes, en fait, des scènes filmées à l'infrarouge, des processions fantomatiques, de formes humaines. Ça, c'est vraiment quelque chose de très joli. Pouvez-vous nous parler un peu de ces scènes-là ?
En fait, moi, j'ai un travail d'artiste visuel qui est très porté sur l'expérimentation des nouvelles technologies ou au contraire de choses très beaucoup plus simples, mais en tout cas d'expérimenter des registres d'images différents. Et j'avais envie aussi dans ce film-là de mélanger ça. Donc le recours à la technologie infrarouge ou de la caméra thermique, ça s'est fait d'abord en termes de scénario, parce que c'est c'est ce que voient les soldats, en fait. C'est avec ça qu'ils travaillent. Et ensuite, moi, ça me permettait de jouer sur ce qui est vu, ce qui est pas vu. Sur voilà, une caméra thermique, ça représente la chaleur des corps. Une caméra infrarouge, ça augmente la lumière, ça permet de voir dans la nuit. Et du coup, ça me permettait de créer des bulles visuelles qui sont presque expérimentales, comme ça, et petit à petit, les soldats se rendent compte qu'on peut aussi détourner et tricher ces dispositifs de surveillance. Que, en fait, finalement, on peut pas se fier à grand chose, qu'il y a rien qui nous donne vraiment la vérité. Et que du coup, il faut se la construire, il faut rassembler des éléments et se construire se construire une croyance. De qu'est-ce qui s'est passé vraiment, est-ce que ce que je crois s'être passé est vraiment ce qui s'est passé ou pas. Voilà, c'est les questions que se posent mes soldats.
Oui, surtout dans cette région-là, comme le dit l'un des personnages, on n'est pas à Kaboul. Ils savent comment on fait à Kaboul. Là, ils savent pas comment on fait. Il n'y a pas de protocole, en fait.
Oui, ils sont un peu perdus. Donc, ils ont leur interprète qui, au bout d'un moment dans le film, est lui aussi perdu. C'est-à-dire qu'au début, on se fie à lui parce qu'on sait que lui, il connaît un peu. Et voilà, il répète, voilà, on n'est pas à Kaboul, quoi. Kaboul, c'est une grande ville. Voilà, il y a des populations étrangères depuis longtemps. La guerre est pas la même. Là, les soldats sont au bout du monde. Et tout le monde est perdu, quoi. Et ces villageois ont un rapport. En fait, c'est pas tellement. Je parle pas des Afghans, mais je parle moi d'un village que j'ai inventé là-bas, comme voilà, avec ces un village retranché du bout du monde. Moi, en tant que documentariste, je suis allé dans, par exemple, dans un endroit très très loin, au fin fond de la Sibérie. On rejoint quoi en hélicoptère après plusieurs jours de voyage. C'est presque une communauté à part entière, une sorte de mini civilisation que j'ai rencontré là-bas. En fait, ils sont en Sibérie, donc on pourrait dire je parle des Russes, mais non, je parle de dans ce projet-là, je parle de cette famille-là. Et là, ce village-là, c'est ce village-là. C'est pas, je parle pas des Afghans en général. Comme avec mes soldats, je parle pas de l'armée française. Je parle de ces personnages-là qui font un travail qui s'inscrit dans l'armée française.
Mais d'ailleurs, même si le film parle d'une rencontre avec l'autre et l'autre au sens antithétique du terme, finalement, on a aussi l'impression que cette troupe et les locaux forment ensemble un groupe. Ils ont même des réunions d'ailleurs de conseil au début, même si le capitaine Bonacieux diffère à la problématique en disant bon rendez-vous la semaine prochaine parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a des moutons, enfin, et on a en fait une unité aussi qui est formée par les locaux avec cette troupe.
En fait, les soldats, ils arrivent dans un territoire qu'ils doivent tenir, et en même temps, il y a une vie sur place. Avec c'est quelque chose de documentaire sur la guerre d'Afghanistan, c'est-à-dire que les populations locales sont malmenées entre les armées d'occupation occidentales ou le pouvoir de l'armée afghane et les insurgés, et en fonction de la saison, de la nuisance d'un camp ou d'un autre, peut passer d'un bord ou d'un autre. Donc du coup, les relations sont jamais très simples, parce qu'à la fois les populations locales, les armées occidentales s'en méfient, à la fois elles en ont besoin. Et une partie de leur mission consiste théoriquement à les protéger. Et on sait aussi qu'il y a eu des crimes de guerre atroces là-bas. Donc rien n'est simple. Et en même temps, il faut parler. On peut pas ne soit que envoyer des bombes à longueur de temps, soit s'ignorer. Au bout d'un moment, faut aller faire le travail, quoi. C'est voir de quoi ils ont besoin. Et puis il y a aussi un rapport à l'argent que j'ai essayé de donner dans le film. Souvent les populations locales, une des manières de tirer profit de toute la violence qui s'exerce sur eux, c'est de passer par l'argent. On sait que les soldats arrivent aussi avec de l'argent, avec de quoi manger pour les années difficiles, pour les récoltes, ou pour les champs piétinés, ou les animaux abattus par les. Ça c'est des choses qui existent et qui sont des points de négociation entre les populations locales et les soldats.
Parmi cette troupe de soldats, on a des personnages qui sont très différents. On a le capitaine Bonacieux, donc incarné par Jérémy Régnier, qui est très en contrôle, qui est très pondéré. On a par exemple un soldat tatoué, on a un futur père, on a un soldat qui demande, incarné par Swann Arnaud, qui demande la bénédiction à un moment donné. On a aussi un Afghan qui communique, qui sert d'interprète, non seulement pour la langue, mais aussi d'interprète culturel, on va dire, avec les locaux. Comment avez-vous formé ce groupe ?
En fait, ce que je voulais, c'est que je suis parti avec une dizaine de comédiens dans la montagne, tous en uniforme, avec des cheveux courts. Ma première peur, c'était qu'on les reconnaisse pas, qu'on sache pas qui est qui. Donc physiquement, je voulais des comédiens assez différents. Leur donner à chaque fois un détail, un truc, on se dit ah oui, lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça. Et en essayant d'éviter le cliché du film américain, on a le gros, on a le petit trouillard, on a. Ou alors de jouer avec ça, mais de pas s'arrêter là, quoi. Enfin, on est obligé de les caractériser d'une manière ou d'une autre, et pour s'attacher à eux, et parce qu'on a envie de les suivre et d'en savoir sur eux. Et de constituer une troupe avec ça, et en même temps les faire évoluer chacun. C'est un travail de scénario et évidemment de composition pour les acteurs.
Et bien sûr, vous avez eu la chance d'avoir Jérémy Régnier, donc qui porte le film, évidemment par un charisme, son charisme tranquille, on va dire, dans ce film. Quand avez-vous su que c'était lui? Comment l'avez-vous contacté? Enfin, comment cette collaboration a-t-elle commencé?
Alors moi, je pensais à Jérémy parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve excellent. Et de la même manière que j'avais envie que le scénario se laisse pas enfermer dans un genre, que ce soit la guerre, le film d'auteur, le film fantastique. Jérémy, c'est un acteur qui se laisse pas enfermer dans un genre de cinéma, que ce soit le cinéma grand public, le cinéma d'auteur. Il est un peu partout à la fois, en étant bien là partout. Et ensuite, j'avais envie d'un. Il a quelque chose il a fait beaucoup de préparation physique pour le rôle, il s'est durci, musclé, enfin il y a quelque chose de, on l'a pas vu je pense aussi carré comme ça dans, des, dans d'autres films. J'avais envie de,
il est bronzé,
j'avais envie d'une espèce de jeune mâle dominant comme ça, européen, qui arrive plein de certitudes et qui, voilà, qui est dans le contrôle, dans le pouvoir. C'est un personnage qui, est, qui peut être assez condescendant, assez méprisant vers la population locale, mais qui est pas, qui franchit pas la ligne rouge, quoi, qui respecte les règles du jeu. Et petit à petit dans le film, il va la passer la ligne rouge. Il va ne plus respecter les règles de la guerre telles que il les connaît. Et voilà, il va s'aventurer sur d'autres terrains, perdre pied et se retrouver mis en échec.
Avez-vous des références, peut-être filmiques ou visuelles, qui vous ont servi pour ce film ?
J'ai plein de petites références, c'est-à-dire de, j'ai pas de, y a pas un film comme ça qui serait au-dessus. J'ai pas essayé de, me, de comment dire, de faire concurrence à, aux grands films de guerre, ni de vraiment m'en inspirer, parce que j'aurais jamais pu être à la hauteur, ni en termes de production, ni en termes artistiques. Et c'était pas l'enjeu du tout du film, mais il y a peut-être un modèle pour moi de production et de mise en scène qui m'a servi plus dans la manière de le faire. C'est les premiers films d'Herzog, Aguirre, Fitzgeraldo, cette manière de pas avoir peur du romanesque et du, comment dire, de quelque chose d'un peu spectaculaire, mais en étant un auteur indépendant, et du coup de passer par une, voilà, un dispositif documentaire, caméra à l'épaule, lumière naturelle, et on y va, quoi. Enfin, c'est un dispositif de caméra intimiste, mais qui se déploie dans un, dans quelque chose de très large, dans des paysages, voilà, à l'autre bout du monde, et qui a pas peur de comment dire, du spectacle visuel, quoi, de voilà, d'essayer d'en donner une sensation de voyage et de j'espère, quelque part de sidération, quoi, de, où est-ce qu'on est là.
Bah, c'est peut-être une caméra dont on fera une caméra d'or, puisque donc vous êtes en lice aussi pour la caméra d'or ici à Cannes, et on vous souhaite toute la chance du monde avec ce film, donc Ni le ciel ni la terre. Merci Clément Cogitor.
Merci à vous.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.